Alors donc, je vais expliquer en gros quelle est ma façon de faire dans ce monde-là qui est celui des jardins, mais c'est pas exactement ça. C'est plutôt une prise de position générale et qui trouve son origine dans un jardin qui est le mien tout à fait au départ, c'est-à-dire là où j'ai fait mon terrain d'expérience, et ça a commencé en gros en 77. Donc c'est déjà une histoire un peu ancienne. Mes 30 ans de décalage, c'est pas de trop finalement pour avoir une idée sur comment les choses se passent, parce que nous jardiniers, nous travaillons dans le temps. Nous travaillons véritablement avec cet objet très particulier qui est la durée. Alors, sans revenir sur sur tout ce qui fait le contenu de ces trois grandes choses auxquelles je suis arrivé, j'hésite à dire qu'il s'agit de concepts, mais enfin trois grandes pistes, le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage, je les évoque tout de même, et en commençant par le premier qui est le jardin en mouvement. Est-ce que cette image, est-ce que ça va ou il faut éteindre? Ça va? Hein? Bon, d'accord. Donc la photo qui est prise ici pour peut-être que tout le monde ne voit pas, mais c'est une photo qui est prise en haut d'un arbre qui n'existe plus, qui est tombé pendant la tempête 99-2000, un grand chêne. Elle montre la maison qui est comme enfouie. Donc il y a un principe qui est celui-là, celui de l'immersion, c'est-à-dire qu'on n'est pas à distance comme devant un tableau, mais on est plutôt dedans. Et les êtres de nature sont plutôt des équivalents. On voit aussi qu'il y a un peu une mainmise, c'est-à-dire qu'il y a des formes taillées, par exemple, qui sont dans la tradition du jardin, du jardinage, mais aussi un aspect beaucoup plus libre. On voit, enfin, on devrait voir, si la photo était de bonne qualité, qu'il y a également un mélange entre des espèces qui sont indigènes et des espèces qui ne le sont pas. C'est important parce que cette question-là, qui est celle du brassage planétaire, est une question qui nous occupe beaucoup encore ce matin à Clermont-Ferrand dans un débat scientifique. Les gens en parlaient. Et moi, je considère que dès lors qu'il y a une compatibilité biologique, il y a une compatibilité écologique. Là, le grand chêne d'autrefois, avec le Stipa gigantea au pied, tout ça a disparu, soulevé par la tempête. Là, c'était en hiver, vous le savez, l'arbre a soulevé la terre. Et il est apparu quelque chose comme ça immédiatement. Dès la première année, ça c'est un an après encore, mais enfin, c'est une forbe, Euphorbia coralloides, et puis des escoldia, des pavots. Ça veut dire qu'ils étaient là. Je n'ai pas mis ça. Il y avait donc, comme très souvent, des semences qui sont à l'état de dormance. Et mon travail a consisté à enlever, parce que pour ne pas gêner la venue de ces plantes que je voyais arriver toutes petites, et leur donner le plus possible de chances de fleurir. Donc très souvent, je procède comme ça. Ça veut dire j'élimine et je n'ajoute pas, ou très très peu. Mais je reviendrai sur ces principes. Là, par exemple, sur cette image, toujours dans la perspective de passer un peu moins de temps qu'on ne le fait dans la gestion traditionnelle, mais de préserver une diversité parce que c'est essentiel, y compris si elle est issue de ce brassage planétaire. Là, on voit des pavots hybrides que je ne connais pas, qui sont roses et rouges. Les digitales sont très classiques chez moi parce que je suis sur un sol granitique acide et filtrant. Les molènes sont partout. Les chrysanthèmes aussi, les marguerites. Finalement, là-dedans, je crois que je n'ai rien mis à part un petit géranium vivace ici. Et tout le reste est venu, les lichnis, tout ça, c'est la nature qui l'a fabriqué. Il y a donc dans ce jardin-là un repérage très important sur les espèces qui arrivent sur le terrain. Puis il y a aussi des plantes que je rajoute. Et ça, c'est des os, des bulbes que j'ajoute. Mais enfin, beaucoup de choses viennent toutes seules. Un événement très important a eu lieu. C'est une diapo scannée, alors les qualités de ces images sont quelquefois un peu. Ça a été la chute du pommier. Alors je l'ai soutenu, il est tombé, mais enfin il est resté vivant. Et il était très important que je le laisse parce que je n'en ai qu'un. Et j'y tiens beaucoup. C'était un pommier qui était là avant que je n'achète le terrain, en 77. Il a été greffé, une variété que je ne connais pas et qu'on aurait du mal à retrouver. Ça m'a amené à introduire un mode de gestion complètement qu'on appellerait aujourd'hui une gestion différenciée, mais enfin, finalement, ne coupant plus l'herbe dessous, puisque je ne pouvais plus passer, j'ai vu apparaître des espèces nouvelles. Donc, immédiatement, je me suis dit, mais ça, c'est une chance pour augmenter la diversité. Au fond, pourquoi ne pas diminuer les surfaces tondues, par exemple? Et puis, aujourd'hui, donc là, c'est passé environ une vingtaine d'années, j'ai dû sevrer l'arbre qui est fatigué. Toute sa partie la plus éloignée des racines a été coupée. Je l'ai coupée. Il a réitéré en de nombreux points. Ce sont des levées de dormance le long du tronc. J'en ai sélectionné une qui donne cet axe. Et maintenant, ça fait comme une espèce de banc, vous voyez. Et puis ça, ce sont les endymions. Les racines sont toujours là. Et l'arbre n'a pas fait de racine adventive ici, donc il y a une émission là qui est sélectionnée. Aujourd'hui, on considère que les arbres sont des êtres très complexes, dont on connaît assez mal les comportements, bien qu'on intervienne beaucoup dessus, mais pas forcément à bon escient. On pense que chaque fois qu'il y a une réitération, c'est un être nouveau, c'est-à-dire que c'est un être sur l'axe, qui est le tronc. De même qu'ici, sur cet axe, des branches nouvelles peuvent être considérées comme des êtres supplémentaires et que l'ensemble constitue une colonie. C'est-à-dire que l'arbre n'est plus regardé par les scientifiques comme un individu, mais comme une colonie, comme une population. Et on peut, du coup, se dire que chaque année, une branche qui a telle caractéristique continuera probablement à l'avoir pendant encore de nombreuses années, que les fruits qu'elle porte auront aussi des caractéristiques singulières et différentes de ces fruits d'une autre branche, et ainsi de suite. Puis il y a des observations qui sont encore plus troublantes, en particulier sur les changements du génome, suite à des chocs probablement environnementaux, mais là on ne connaît pas exactement les causes, qui font que l'arbre est capable, il n'est pas possible pour lui de s'enfuir hein, quand il a un choc, comme les animaux, eux, peuvent le faire. Et donc, il réagit en changeant quelque chose de très profond en lui, qui est le génome. C'est une chose incroyable. Et du coup, certaines parties de l'arbre, en fonction de son âge, portent des écritures génétiques différentes. Ça, ce sont des découvertes aussi récentes, beaucoup plus d'ailleurs sur les... Ça a été d'abord fait sur les plantes tropicales, mais en fait, on sait que c'est généralisable. Donc, chez moi, cette diversité est présente par... une partie de la flore indigène. Tiens, il marche tout seul, là. Et une partie de la flore exotique. Celle-ci est une Racléum antagasianum. C'est une grande berce. C'est la berce du Caucase. Et elle peut monter, comme vous voyez, extrêmement haut. Elle est considérée comme une plante invasive, envahissante, ce qui, pour moi, ne signifie absolument rien. Je dis simplement qu'elle est contente d'être là. Puis elle prend un peu d'expansion, ça dépend des moments. Mais c'est une bisannuelle. Quand je la vois arriver, par exemple, ici, je me dis, je la réserve, j'en fais une sorte d'île. Ça, c'est le pied-mère. Elle va monter, comme vous avez vu, puis elle va disparaître, puisqu'elle meurt après avoir fait les graines. Donc, au fond, il suffit d'attendre. Et au moment où elle aura disparu, eh bien, on pourra passer, alors que là, elle va bloquer tout l'espace. Dans ces cas-là, le jardinier devient celui qui interprète le mouvement physique sur le terrain. Et du coup, voilà, un autre moment. Du coup, les cheminements changent, les îles d'inflorescence changent de place. Et si j'appelle ça le jardin en mouvement, parce qu'il y a un mouvement physique sur le terrain. Alors, la philosophie générale, si on peut utiliser ce mot, peut-être un peu trop, mais enfin, c'est faire le plus possible avec, le moins possible contre, ces énergies en place, et l'énergie de déplacement en est une. En tout cas, là, le jardinier ne va pas contre, ou très très peu, au moment, par exemple, où ça fructifie, pour éviter qu'il n'y ait trop de semences qui viendraient fermer l'espace. Au bout d'un moment, là, il n'y aurait plus que des grandes berces, je supprime la fructification de quelques-unes, et j'en laisse d'autres. Enfin, c'est vraiment rien du tout à faire. Cette image est importante parce que là, je parle d'une collaboration qui se fait avec l'animal. Vous voyez les taupinières là, à raser. Donc, je donne un coup de pied dans la taupinière. Et à ce moment-là, il y a un petit labour. les graines des bisannuelles, qui sont des plantes à cycle court, ne germent véritablement que quand il y a un sol qui est ouvert. C'est comme les messicoles, les plantes des moissons, les ruderales, il y a besoin de beaucoup d'air comme ça. Autrement, on ne les voit pas. C'est comme ça que l'arbre s'étant retourné, sont arrivés des tas de pionnières, les euphorbes, coralloïdes et d'autres. Bon, mais c'est pareil ici, sauf que c'est plus petit. L'arbre a fait une énorme taupinière et ça, c'est une petite. Mais ces plantes-là sont venues sur des anciennes. Et ainsi de suite. Donc le vagabondage de mes plantes vagabondes, qui sont en fait toutes, dès qu'on a une bisannuelle ou une annuelle, c'est une vagabonde par la force des choses. Elle ne se régénère que par la graine, donc elle est véhiculée, cette graine, par le vent, par les animaux ou par nous. Ça va aller se ressemer ailleurs. Et moi, j'obtiens comme ça, j'ai maintenant quatre espèces de molène. Bon, voilà deux, ça c'est Flococcus tapsus, mais j'ai Blattaria, Nigrum, enfin j'en ai d'autres. Et Phlomoides, j'en ai cinq. Et ces plantes-là, bon, plus d'autres, sont maintenues en tant que diversité par ce jeu un peu complexe que je maîtrise absolument pas du tout. En tout cas, la taupe est un assistant du jardinier du jardin en mouvement. Hein. J'ai essayé d'introduire des taupes à Paris et... Au parc André Citroën, ils avaient bien compris la philosophie de la chose, bien sûr. Hein. Mais ils m'ont dit tout de suite, non, de toute façon, elles n'auront pas à manger. Ce qui n'était pas faux, parce que j'avais des terres damées et pauvres. Et puis, enfin, j'espère qu'un jour, on pourra en mettre. Mais il ne faudra pas leur dire. Ça, ce sont des expériences sur des absences de sol, qui sont très importantes pour nous, parce que plus on a une pauvreté pédologique et plus on a une richesse floristique, la plupart du temps, les séries floristiques qui sont inféodées à des sols très squelettiques, comme ceux-là, sont originales. On ne les trouve pas dans les terres riches, eutrophisées, riches en nitrates, par exemple. Là, c'est très sélectif. Hein. La nourriture est sélective. Hein. Ça fait mourir beaucoup de plantes. Beaucoup de gens aussi, d'ailleurs. C'est sur la planète aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai en même temps des plantes exotiques comme ce pavot californien et des plantes complètement indigènes comme cet encolie qui pousse aussi d'ailleurs sur un escalier que j'avais construit. Et pendant trop longtemps, je n'avais pas fini. Alors, les plantes se sont installées. Vous voyez, Aquilegia vulgaris qui pousse sur ce granit. En même temps que les passiflores. Cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, puisqu'on est quand même en plein réchauffement. Passiflora cerulea, cette plante-là, n'était pas du tout réputée résister longtemps dans les zones froides. Moi, je suis dans la Creuse. Eh bien, non. Elle est devenue une liane énorme. Elle se glisse un peu partout par terre. Elle ressurgit, elle remonte dans les arbres. Enfin, elle prend des développements très considérables. Et donc, en gros, ce jardin se présente un peu de cette façon, avec une mainmise assez libre, en partie humide, et des plantes comme celle-ci, qui sont complètement originaires. D'ailleurs, c'est la Gunera, plante de Chili, que j'ai finalement aussi, par la suite, introduit dans d'autres jardins, y compris des jardins très urbains. Et ça aussi, c'est une plante impressionnante. Hein. Mais elle est très à l'aise, là. Enfin, le Gunera, hein, à l'aise. La jeune fille aussi, peut-être. Et il y a un ruisseau, il y a une arène granitique, donc c'est filtrant, mais il y a de l'humidité en permanence. Ça lui convient très bien. On ne peut pas avoir cette plante partout. Ça, c'est important parce que dans l'histoire de cette diversité, les insectes sont sans doute les êtres les plus fragiles, les plus menacés. Et ils représentent un maillon clé dans cette chaîne écologique très complexe. Si on les comprend, et si on aborde les questions même du jardin planétaire, je dirais, c'est-à-dire sur une question beaucoup plus globale, on comprend tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe en aval, puisque ça en dépend. Les plantes aussi bien que les animaux. Donc le monde entomologique, qui est mal connu, demande à l'être plus qu'il ne l'est pour l'instant pour pouvoir prétendre jardiner finalement. Ça, c'est Eduarda. Elle s'appelle Eduarda parce qu'il faut donner des noms. Hein. Étant donné qu'elle habite le toit maintenant, le double toit, c'est la Zamenis. La Zamenis est une couleuvre qui remonte en ce moment, Elle remonte vers le nord de la France. Et il y a 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, j'étais à Épinal et on m'a expliqué qu'en effet, ils avaient classé, Épinal c'est une région froide, hein, ils avaient classé un lavoir parce que une Edouarda, en quelque sorte, s'était promenée par là-bas et c'est un animal protégé. Cette couleuvre, elle est vindicative, hein, c'est quelqu'un qui fait la loi un petit peu. Elle a chassé les vipères depuis longtemps dans la région. Elle habite plutôt les toits, les greniers, ces endroits-là. Pour des périodes d'été, le reste de l'hiver, elle disparaît très longtemps sous terre. Et elle règle les populations de rongeurs, bien entendu. Plein d'autres choses aussi, des petits animaux, des limaces, tout ce que vous voudrez. Et elle s'est battue chez moi avec une fouine qui s'appelle Décibel, parce que les fouines sont très bruyantes. C'est la fouine qui est partie. Et oui, oui. Elle a eu peur d'Edouarda. Alors ça, c'est une photo très rare. C'est Edouarda avec Edouard. C'est très difficile à prendre, hein, comme parce que... Mais là, elle pendait du double toit. Vous voyez, il y a la vitre et moi, j'ai mon bureau, là. Et ça faisait du bruit au bout d'un moment. Bon. Et puis, plouf, j'ai vu tomber ça. Ça a duré, d'ailleurs. J'ai fini par leur demander d'aller s'ébattre ailleurs. Et je les ai pris par la queue ensemble, tous les deux, pour les emmener un peu plus loin. Je les ai pas revus depuis. Et peut-être que les serpents se vexent, mais ça, je ne sais pas. Parce qu'on manque d'habitude, on ne communique pas. Là, et c'est, on ne nous apprend pas ça. Et on ne nous apprend pas les insectes, on ne nous apprend en fait rien à peu près. Hein. Ce qui fait que quand on a un jardin avec une certaine diversité, c'est très difficile de comprendre quelque chose qui ne soit pas, de ne pas faire des erreurs. Quoi. Bon, ça c'est juste un résumé de cette situation. Et quand j'ai commencé à travailler, à appliquer la première fois au parc André Citroën et Jardin en Mouvement, ça a été un peu ressenti comme quelque chose d'étrange, s'inspirer d'une friche, puisque c'était ça le départ de l'histoire de mon jardin, c'était une friche que j'ai jardinée. Et le proposer sur à peu près 1 hectare, ça c'est à peu près ici, vous voyez que ça se passe. Là on voit des lignes dessinées par les gens, ça s'appelle des lignes de désir. Quelquefois il y en a qui restent toujours au même endroit, ça ce sont les lignes de jogger. Parce qu'il y en a beaucoup aussi. Ça c'est un virus ou un antivirus. Bon. Mais on ne sait pas pourquoi il arrive là. À ce moment-là, à cet endroit-là. Non. Voilà. C'est un Norton. Merci. Alors, bien sûr, dans ce jardin-là, il y a des mises en scène assez traditionnelles et avec des gestions relativement traditionnelles, mais toujours écologiques. Voilà, tous les jardins sériels font partie de cette catégorie, vous voyez, avec un désherbage manuel, des choses de ce genre, jardin argenté, on a vu orange et bleu, etc. Mais le jardin en mouvement a été celui qui a été le plus saisissant pour les gens de Paris à cette époque. Et tout le monde a pensé que ça ne durerait pas, mais aujourd'hui il existe encore, il est géré par les jardiniers eux-mêmes. Là on voit des pionnières qui maintenant ont disparu. Vous voyez comment ils font, ils choisissent. Il faut qu'ils aient, ces jardiniers, un sens de la conception et un regard sur le biologique, sur la connaissance. Il faut qu'ils disent, là, je garde ces plantes-là, j'enlève celles-ci, mais aussi je dessine une courbe ou bien, enfin, je me débrouille pour qu'il y ait une espèce de rapport comme ça entre les pleins et les vides. Et là, il y a vraiment un jugement esthétique. Alors maintenant, ils savent, hein, ils arrivent à faire des choses. Ça, c'est un moment plus récent, il y a 2 ans, avec des inules, les plantes vivaces ont pris le dessus désormais. On avait mélangé là une 40aine d'espèces brassées comme ça, justement, exotiques et indigènes, tout à fait dans l'image du brassage planétaire, semées en une seule fois, et ensuite les jardiniers interprètent ce qui arrive au fur et à mesure. Alors pendant 2 ans, j'ai travaillé avec eux pour voir comment on allait faire, parce que moi je ne savais pas ce qui allait arriver. Puis après, ils se débrouillent. Là, en ce moment, nous sommes en train de faire une expérience très importante au lycée de Saint-Herblain, qui est un lycée agricole près de Nantes. Ici, nous avons un enseignant d'un autre lycée, peut-être voilà, de Nevers. Et c'est très important parce que c'est la première fois qu'il existe sur 6 hectares une expérience de jardin en mouvement, de manière avérée, tout le monde est au courant. Ça a été une lutte de 3 enseignants contre une institution qui ne veut pas voir arriver des gestions différenciées comme ça, dans le sens où ça vient complètement à l'encontre de tout ce qu'on préconise dans ces écoles depuis toujours et où les étudiants sont sommés d'appliquer des recettes au dos des produits, vous savez, sur les emballages là, qui sont en général des toxiques et terribles. Or, moi, je dis, on ne met pas d'eau, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides, on ne met rien. Il n'y a pas d'intrants. On ne s'occupe que de l'arrosage de plantes en souffrance quand vraiment il y a des situations qui sont graves. Bon, alors là, eux, ils ont 6 hectares. Et ils font le dessin qu'ils désirent faire en fonction d'objectifs qu'ils se fixent ensemble, soit pour aller au bout de traverser, passer d'une parcelle à l'autre, soit pour accéder à une plante, soit pour des raisons qui sont autres et qu'ils changent, qu'ils définissent à chaque fois, nouvellement. Oui, par exemple, dans des saules cendrés, ils vont tracer une fenêtre, ils vont faire des ponts pour accéder aux zonantes. Ce n'est pas anecdotique, mais ici, il y a un tout petit ruisseau. Il y avait un triton crêté, des tritons crêtés qui ont disparu. Quand nous avons pris le terrain, il y avait une couche d'huile de vidange d'un garage qui est un peu plus loin, un garagiste professionnel. Maintenant, les tritons sont revenus. Ça fait la 5e année. Donc, c'est incroyable, mais c'est pas perdu, quoi. Il y a des positions de repli de la diversité dans des espaces qu'on ne connaît pas bien, qui sont donc précieux de ce fait, et je viendrai à ça tout à l'heure. Là, ils ont, par exemple, dans une parcelle un peu plus sèche, plantée de chênes, ils ont décidé de les tailler à différents niveaux en créant des parcours à l'intérieur. Ça fait comme un labyrinthe. Ils n'apportent rien. Le jeu, c'est qu'ils n'apportent rien. Tout est sur place pour eux. Ils font avec, justement. Il crée des points de vue, des passerelles, comme ça, avec pas mal de créativité. Et avec des plantes aussi dissuasives que les Ulex européus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'ajonc épineux. Ils entreprennent de faire des sculptures au lieu de les enlever. D'habitude, dans une friche épineuse comme celle-ci, on enlève plutôt les plantes comme ça, et non, pas du tout. Et ils ont travaillé comme des artistes sur ce genre de choses-là. Et plus difficile... l'utilisation des ronces. Ça, j'avais pas pensé. Parce que moi, je ne me suis jamais servi des ronces autrement que pour en faire un matelas de protection, puisque c'est le niveau de la friche armée qui protège les jeunes arbres de la prédation, en particulier des chevreuils. Ça se voit très bien en montagne, où là, on a vraiment des grands massifs d'épineux qui protègent ces arbres. Mais ici, ils avaient un grand roncier en pleine lumière. Alors, ils ont travaillé en faisant des tunnels et des passages. Ils voient le roncier régresser progressivement du fait de la poussée des arbres. En 5 ans, ça s'est vu. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour eux de l'observer. Et un jour, ce roncier disparaîtra puisqu'il sera sous le couvert. Ça, c'est une expérience de l'école normale de Lyon qui fait 5 hectares. C'est un jardin que j'ai dessiné il y a 6-7 ans maintenant. On l'a mis en œuvre. Et le jardinier chef, Michel Salmeron, je dis chef parce qu'il a 3 autres personnes avec lui, mais il ne se prend pas pour un chef. Il est surtout un très bon jardinier. La seule chose fixe, c'est ça. Là, on a des prairies qui sont gérées comme une fauche annuelle, donc c'est avec des sentiers éventuellement tracés dedans. Et tout ça est géré comme un jardin en mouvement planté de ligneux, mais avec des plantes vagabondes. Il a introduit 3 moutons, des moutons bizarres qui ont des cornes qui tournent beaucoup et qui sont marrons, tout petits, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai oublié le nom. Il les met là, il fauche, il leur donne à manger le foin là, il broie les feuilles, les branches. Il fait du BRF, du broyat raméal fragmenté, qu'il pose sur une dizaine de centimètres. Il sert à la fois d'engrais et de paillage. Il fait des mulches aussi inertes et du compost. Il n'exporte plus rien. Ça veut dire pour une ville où on est au cœur de la ville, ici à Gerland, c'est très très coûteux d'exporter. C'est des camions de volume énorme qu'on va jeter aux déchets alors que c'est de la matière organique. C'est c'est finalement une nourriture, donc c'est un trésor aussi. Et du coup, ils recyclent tout. C'est un jardin qui est très intéressant à visiter. Alors, il y trace des allées en fonction de ce qui s'y passe. Hein, et c'est vraiment la gestion du jardin en mouvement, plus ou moins fleuri, avec des accompagnements qui sont fixes, puisque les arbustes ne bougent pas, évidemment. Mais, par exemple, ici, sur cette même figure, on voit apparaître, les buis ont disparu derrière la végétation d'été, mais les plantes vagabondes, on les voit ici, associées à des érémurus, il sait très bien se débrouiller avec ça. Bon, ça c'est le jardin du directeur, mais c'est pour faire plaisir aux... Mais en dessous, c'est géré, c'est écologiquement géré, si vous voulez. Ça, c'est simplement pour montrer que nous sommes au pied des jardins de l'Arche, vraiment entre le cimetière de Puteaux et le cimetière de Neuilly. Les jardins de l'Arche, on les a réalisés il y a une dizaine d'années aussi. C'est pour montrer la présence de cette nature, possiblement, dans une ville qui est très, très ingrate, avec des courants d'air, avec une présence minérale très forte. On y a installé un sol qui est assez diversifié, qui permet l'accueil des végétaux, puis des grandes îles dans lesquelles on plante, et dans lesquelles aussi, et à l'intérieur de ces îles, il y a une gestion du mouvement. Ça, ce sont les chapeaux qui protègent les bourgeons fragiles des gunéras, puisqu'on en a mis là aussi, pendant la période hivernale. Mais il y a des plantes très banales, comme les sureaux, et d'autres espèces très faciles à entretenir, ce qui fait que là-dedans, en combinant tous ces végétaux, dont on connaît bien le comportement, on arrive à avoir un entretien extrêmement limité. Et dans les joints, on peut avoir apparaître des mousses. Ça fait partie des possibilités. Bon, récemment, j'ai fait ce jardin. Je n'y vais plus pour des raisons qui sont les miennes. Mais il est intéressant, il a été très intéressant pour moi à concevoir et je l'ai imaginé plutôt comme une sorte de savane arborée qui se réfère à des paysages non occidentaux. Parce que le contenu à l'intérieur du musée du Quai Branly à Paris est un contenu qui intéresse des civilisations animistes plutôt situées sur la couronne tropicale et parfois dans des zones tropicales sèches. Donc j'avais envie de ça, mais c'était vraiment pour m'accorder à cette civilisation, à ce qui est dit, au contenu. Cela dit, d'un point de vue de la gestion, d'abord, on est en plein brassage planétaire parce que ça, c'est une herbe du Texas. Ici, il y a des indigènes, des herbes indigènes, et puis il y a des carex néo-zélandais. Enfin, c'est vraiment composé avec ce qui est capable de pousser dans le climat parisien, mais qui renvoie à la savane. Et ben voilà un badge, peut-être pour le prochain. Il y a 300 inclusions dans le sol et qui sont censés, c'est en fait un jeu, ça finit par être un jeu pour les enfants, mais qui sont censés faire allusion au langage animiste parce que les animistes portent une âme à tout ce qui est vivant. Alors j'ai mis là des insectes, des coquilles d'escargot, des plantes, des fruits, etc. Et il y en a 300 qui sont comme ça. Ce sont donc des équivalents vivants et respectables. Enfin, là, ceux-là, ils sont morts, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est une expérience que je suis depuis maintenant 12 ans. C'est le champ qui était une seule plante. Il y avait du dactyle aggloméré, c'est-à-dire une plante destinée au fourrage quand j'ai acheté le champ. J'ai semé une quarantaine d'espèces et je suis l'évolution du champ. Et aujourd'hui, j'ai à peu près toujours ces 40 espèces. Mais c'est plus exactement les mêmes. Mais ça, c'est la parcelle témoin. Ça, c'est à peu près 3 ans après le semis. Il y avait encore cette figure-là, mais maintenant, ça a beaucoup changé. Et il y a à peu près le même nombre, sauf que ce ne sont plus les mêmes. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup plus de Véronique. Il y a des campanules rapunculoïdes qui se multiplient énormément. L'épiricum est arrivé. Enfin, des choses qui changent beaucoup. Hein. J'observe la diversité entomologique aussi. Et je vois arriver aussi des plantes qui ne peuvent pas venir d'une proximité. Parce que ça, c'est un œillet. Le Dianthus carthusianorum vient de terrain calcaire, j'ai rien de calcaire alentour, mais rien, avant très loin. Donc c'est les oiseaux, forcément, hein. Je fais des comptages entomologiques. Alors depuis, ça c'est Thyria jacobae, c'est une chenille d'un papillon qui mange, la chenille elle mange et régule la population de Sesson de Jacob. Depuis 2 ans, je la vois plus, probablement à cause de la présence de cultures de maïs. Et ça pose un très grave problème, hein. Ces grandes monocultures modifiées plus ou moins. Ça, c'est le Thyria, qui est un joli papillon rouge. Ça, ce sont des bio-indicateurs. Enfin, de toute façon, tout est bio-indicateur, évidemment, hein. Mais les Hespérides, quand on en voit beaucoup dans un paysage, une prairie fleurie comme ça, c'est plutôt un bon signe. La chenille est sur des graminées. Les macaons, je ne sais pas où ils sont ici, sur quelles plantes hautes. Nous les avons sur le fenouil, oui, sur la carotte, évidemment, c'est sa plante préférée, mais la carotte pousse pas bien chez moi, la carotte sauvage, et du coup j'ai mis du fenouil, ça c'est de la rue, c'est Ruta graveolens. Et ça on ne savait pas trop, mais elle se nourrit aussi de la rue. Je vous le dis, pour ceux qui voudraient voir des macarons, après tout c'est un papillon magnifique qui est un petit peu en voie de fragilité aussi. Là c'est le flambé, celui. Lui, il vit sur d'autres plantes qui ne sont pas, qui sont plutôt des ligneux. Et l'Aporia crategi, il vit sur le crategus. Mais enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours de lépidoptérologie. C'est juste pour vous montrer que je m'intéresse à ça et je fais des relevés sur les insectes. Aporia est un papillon, lui, protégé maintenant. Et c'est le plus élégant. Il n'a pas de taches. Il a juste les nervures noires. Les argiopes sont venus. Ça, c'est une femelle. Il y en a beaucoup maintenant. Alors, c'est probablement aussi une traduction du réchauffement, ainsi que les mantes religieuses qui sont arrivées en nombre. Il n'y en avait pas. C'est mon radeau. C'est un radeau fixe, hein. C'est un radeau des champs. C'est un lieu pour dormir et pour. J'ai deux paires de jumelles, une qui permet d'observer cette diversité proche, une autre loin, avec des focales différentes. Et j'y dors quand il fait beau, la nuit. Parce que le matin et le soir, il y a des animaux qui arrivent et qu'on ne voit pas autrement. En ce moment, je suis en train de fabriquer avec l'association Sentier des Lauzes des observatoires, en fait, comme ça, qui sont comme des flaques de bois dans le rocher. À partir de là, on voit des paysages qui sont énormément transformés, c'est en Ardèche. Et aussi, on voit des plantes qui sont tout près. Et qu'on n'avait pas l'habitude d'observer. Alors, il va y avoir un texte et un document qui vont avec. On a 14 espèces de lichens ici. Je pensais qu'on en avait 4. On fait venir une lichénologue, il y en a 14. Je vais aller un peu plus vite, peut-être pour pas, parce qu'il commence à faire chaud. Toute cette disposition-là, je l'avais mise au point pour l'expo au Jardin Planétaire à Paris. Et cette image renvoie à l'idée du Jardin Planétaire qui, l'angle d'entrée de la réflexion se faisait par la diversité exclusivement. Et c'était au fond, qu'est-ce que c'est, son origine, cette diversité, et que peut-on faire aujourd'hui, c'est-à-dire comment peut-on l'exploiter sans la détruire, son origine, sa mise en péril et son exploitation. Ce qu'on voit ici, parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les cartes dans ce sens. Et ce qu'on voit mieux, si vous voulez, bon, c'est une carte éditée par les Australiens, évidemment, c'est cette espèce de morcellement. On voit jamais ça, puisque c'est jamais au centre. Or, l'idée de le morcellement, ce sont les isolats, ce sont des isolats géographiques, et la diversité est tributaire de l'isolement, c'est-à-dire de. Plus il y a de situations d'isolat géographique, plus il y a de diversité, potentiellement. Et dans l'histoire de la planète, c'est comme ça. Nous sommes encore dans un pic de diversité, en dépit de tout ce qu'on fait sur cette planète et qui détruit cette diversité. Mais enfin, elle a connu des extinctions d'espèces, cette planète. Et aujourd'hui, à cause du fait de cette dérive continentale, à cause des émergences montagneuses qui créent des séparations, des grands fleuves, enfin, tout un tas de choses qui isolent énormément, on peut avoir comme ça des grandes zones climatiques et des toutes petites jusqu'à des microbiotopes. Et à chaque fois qu'il y a des plantes et des animaux isolés qui ne se rencontrent plus avec les souches mères, elles se différencient, elles aboutissent à des espèces nouvelles. Donc le nombre d'espèces correspond à, généralement au nombre d'isolats, mais enfin, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a les mutations, il y a les changements brusques qui s'ajoutent à cette mécanique-là. Aujourd'hui, on est plutôt dans... Alors là, on se remet à l'endroit, le nord est au nord, et on est plutôt dans la configuration du brassage, où finalement, toutes les plantes et tous les animaux appartenant à une même zone climatique vont pouvoir se retrouver. C'est comme ça qu'on a chez nous des plantes américaines, chinoises, qui peuvent vivre dans nos zones climatiques à nous. Et par exemple, ça, c'est une zone désertique de tous les déserts de l'hémisphère nord. Il y en a un petit peu dans le sud. Ça, c'est la zone intertropicale. Il y a très peu de masse continentale dans le sud. Vous le voyez, c'est très important en haut, etc. C'est ce qu'on appelle le continent théorique. Et ce continent théorique, c'est celui sur lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la mécanique du brassage planétaire, avec des dégâts qui viennent du fait de la mise en concurrence d'espèces qui n'étaient pas prévues pour se rencontrer, mais avec des rééquilibrages aussi qui sont finalement montrent que ces dynamiques-là évoluent et peuvent très bien aboutir à des situations de stabilité. Alors, le seul exemple que j'ai pour parler de ça, c'est le jardin du Rayol, où je montre des paysages qui sont des emprunts à des paysages méditerranéens du monde. Voilà la Méditerranée. Alors j'ai emprunté un peu à la Californie, au Chili central, au sud-ouest, la zone du Cap de Bonne-Espérance, au sud-ouest australien, un petit peu de Nouvelle-Zélande, un peu de Chine aussi. Voilà. Et donc c'est un jardin alors qu'il faut aller voir pour comprendre, mais c'est pas un vrai jardin botanique, c'est un jardin de compréhension des mécanismes. Il y a là des plantes qui sont des vicariants qui se ressemblent beaucoup, d'autres qui se différencient, mais toutes ces plantes appartenant à tous ces paysages, là on est en Nouvelle-Zélande, ici encore, ici on est au Mexique, vous voyez, c'est très différent, quelquefois ça peut ressembler comme ces deux figures qu'on vient de voir là, le Mexique et le Chili, central, on est pourtant très éloigné, quelquefois ça ne se ressemble pas. Ça, c'est une plante qui fait penser aux précédentes, mais elle est australienne et elle n'est pas du tout de la même famille botanique. Bref, toutes ces plantes, elles ont un point commun qui est fascinant, c'est qu'elles vivent avec le feu et qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin pour se régénérer, elles ont besoin de chocs thermiques pour que les dormances des graines soient levées, elles ont besoin des chocs chimiques, parfois avec la fumée, pour la même raison, et ainsi de suite. Et donc, ces plantes sont des pyrophytes et des pyropaysages, elles sont constituées des vrais pyropaysages. Ce que nous voulons dire là-bas, c'est que le comportement et la réaction à ce que nous appelons, nous, une catastrophe, est complètement différente, vue par la nature, et que finalement, le feu peut être imaginé comme un outil du jardinage sur la planète, ce que certains jardiniers utilisent d'ailleurs. Alors, je vais terminer par le tiers paysage, qui est une notion importante. Il fait chaud, hein ? On va... peut-être éteindre ça. Ouais. Voilà. Fait déjà une source de chaleur en moins. Mais nous sommes tous des sources de chaleur. En plus, je montre des images de feu. Alors, ça, c'est une analyse du Limousin. Le Limousin, c'est pas très, très différent du Morvan comme aspect. Hein. C'est pas la même région du tout, mais c'est simplement qu'il s'agit d'une zone qui est en balance entre l'ombre et la lumière avec des partitions presque égales, où les forêts et les pâtures sont là. Il n'y a pas de culture ou très très peu. Et on voit bien ce que ça peut vouloir dire comme équilibre et comme image. Et j'avais une mission d'analyse. Je vois des grandes forêts gérées, des pâtures gérées. Je m'approche et je trouve rien comme diversité sous les arbres, surtout parce que ce sont des conifères. Très très peu là, parce que beaucoup d'engrais, beaucoup d'intrants, prairies appauvries. Mais... dans les interstices, on voit déjà, à l'œil nu, ça se voit, une certaine diversité. Et c'est justement là des lieux abandonnés, finalement. Et je rencontre cette diversité là où il n'y a rien, là où on ne vient plus, là où c'est trop accidenté, là où les machines ne peuvent pas passer. Ça, c'est dans la Drôme, enfin, c'est la même idée, c'est une friche calcaire. Et on voit la diversité ici, les cultures, une autre diversité, une petite diversité dans la strate arborée. Le long des routes, je trouve ça aussi. Les trois orchidées qui poussent dans ma région, ça c'est l'Orchis laxiflora, se mettent là. On ne les trouve pas dans la culture derrière, elles sont chassées dans les pâtures aussi. Elles ne vont pas sur le goudron, donc voilà. Et donc le gestionnaire du bord de route, il a une responsabilité énorme, parce que moi je dis si la diversité se replie, ce sont des surfaces de repli à la diversité, ces zones d'oubli, à ce moment-là, ça devient des lieux très importants. Ce sont des territoires du futur. Nous dépendons de cette diversité que nous n'exploitons pas encore, peut-être que nous ne l'exploiterons jamais toutes, et tant mieux d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour qu'on le fasse, mais enfin, elle est présente, et même si nous n'en tirons aucun espèce de bénéfice, le seul fait qu'elle existe est très important pour nous. Le plaisir, rien que ça. Mais bon, indépendamment de ça, c'est notre futur, puisque nous faisons tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons dépend de ça. Alors, si simplement nous rétrécissons ces séries animales et végétales que nous exploitons en les clonant, en les transformant en OGM pour en faire des immenses champs industrialisés, au détriment de cette diversité, c'est le programme qui est en train de se faire avec agrocarburants, évidemment qu'on va détruire quelque chose qui est notre futur. On le fait en plus en polluant terriblement, puisqu'il faut des intrants qui sont tragiques là-dedans et qui vont complètement détruire les nappes profondes et même les nappes de surface, évidemment. 96% des eaux de surface sont polluées en France. Donc je dis ça, c'est précieux. Et du coup, je cherche un terme et je l'appelle le tiers, c'est le troisième paysage après celui de l'ombre et de la lumière. Je dis c'est le tiers et non pas le troisième parce que je me réfère à Sieyès, vous savez, qui au moment de la Révolution dit qu'est-ce que le tiers état? Bon, tout, c'est la diversité, c'est tout le monde. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Pas grand-chose, il n'avait pas le pouvoir. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Moi, je pense que nous devons porter attention à ça, que cet ensemble doit devenir quelque chose pour nous. Là, récemment, à Brisbane, je vois cette plante, qui est un pénicétum. Donc, on est en Australie. Une graminée, qui chez nous est une graminée ornementale, qu'on met dans nos jardins, dans les massifs, etc. Et là-bas, on n'y a pas un seul jardin où on voit cette plante-là. Elle pousse dans le tiers paysage australien de Brisbane, vous voyez, partout, dans les fissures de la ville, parce que le tiers paysage, c'est partout, y compris dans la ville. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Une plante qui est mauvaise là-bas, ici, bonne, on ne sait pas trop, quoi. Ça ne signifie rien du tout. Une herbe, c'est une herbe. Récemment, j'ai été interrogé pour faire une tapisserie. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, moi je ne suis pas tapissier. Alors, je fais un carton. Ça, c'est Aubusson, ça, c'est Feltin, la vallée de la Creuse, la vallée de la Roseille, la forêt, très active en été, les prairies un peu plus sèches. Bon. Et je dis, en jaune et orange, activité maximum, zone accidentée le long des pentes, c'est ça le tiers paysage. Donc, les cartographier, puis finalement, je vous passe tous les exemplaires de carton que j'ai fait pour arriver à ça. La tapisserie a été tissée, elle fait 6 mètres carrés, et on a finalement une surface dédié à la diversité dans un paysage qui apparemment est très naturel, qui est toute petite, pas très grande du moins. Alors, elle est pendue dans cette médiathèque avec des explications quand même, parce que non, c'est un peu. Récemment, on m'a demandé de parler de ça, parce que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Le Manifeste du tiers paysage et il a été traduit. Et de ce fait, ça m'amène dans le monde à parler du tiers paysage. Donc, je vais d'abord voir comment il est. Je suis allé à Tijuana récemment pour ça, et là c'était au Canada. Alors j'ai proposé un lustre, et vous voyez, on a prélevé des éléments de la diversité dans les délaissés à côté du Centre canadien d'architecture à Montréal, et suspendu dans les inclusions. Ça renvoie au texte, et puis au livre. Je vous passe les détails de l'exposition qui était assez vaste. Et là, je prépare une exposition pour le centre Manrique Lanzarote. Ça, c'est l'île de Lanzarote, aux Canaries. Et tout ce qui est cartographié en rouge, ça représente les espaces où l'homme ne fait rien. Mais parce qu'il ne peut rien y faire. C'est vrai que c'est terriblement sec. Bon. Et là, comme il y a eu, en 19e, un développement un accroissement de l'île par un volcan, une activité volcanique de 4 années consécutivement, les roches sont récentes, mais on y décèle déjà 10 lichens endémiques, ce qui est très étonnant, parce qu'il y a donc des nouveautés, si vous voulez, sur la planète. Il y a des nouvelles espèces qui se fabriquent. C'est récent, hein, fin du 19e, vous voyez, c'est très récent. Donc voilà le paysage de Lanzarote, qui est très ingrat, hein, comme vous pouvez voir. Le seul parc que j'ai pu scénographier, où j'ai pu scénographier le terre-paysage, c'est le parc Matisse à Lille, sur ce plateau qui est perché à 7,50 m, au milieu d'un grand boulingrin, vous voyez, comme ça. Lui, c'est public, il y a 8 hectares, là. Et ça, c'est la nature qui fait toute seule son paysage. Alors ça a été très décrié au début, parce qu'il y a des habitants qui n'ont pas trop aimé. Maintenant, ça commence à devenir un atout pour la ville. Le discours a changé. Et puis, il y a toute une gestion différenciée sur les 8 hectares du parc. Et c'est aussi très fleuri, hein, il n'y a pas de raison. Mais c'est très simple et c'est très peu coûteux à l'entretien. Enfin, je viens de faire pour la ville de Mel à propos d'une biennale artistique, un jardin, qui d'abord a été pour moi un jardin d'eau, parce que analysant la ville avec 1600 taxons d'arbres, incroyable, hein, c'est un arboretum, hein, planté en espace public, qui est exceptionnel, par le maire, qui maintenant est très âgé, Jean Belot, je me dis, je ne veux quand même pas parler des arbres encore, donc je dis, on va parler de l'eau et du traitement de l'eau, parce que c'est une eau très 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 polluée là-bas, un peu comme en Bretagne. Donc je proposais un petit, emblématiquement, un tout petit lagunage. Et là-dessus est passée la loi d'orientation agricole que vous connaissez peut-être, en janvier 2006, où on interdit les produits non homologués. Les produits non homologués, c'est tout ce qui est bio, en gros, et qui n'est pas commercialisé par les grands lobbies, et qui est surtout gratuit, parce que le purin d'ortie, c'est gratuit. Donc, en juillet 2006, les gens qui parlent du purin, qui le commercialisent, se sont vus saisis. Là-dessus, on s'est ému, cette situation. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Alors, on risquait 25 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Et alors, finalement, j'ai proposé un jardin d'ortie. Disant quand même, on ne va pas laisser les choses comme ça. Et la ville de Mel a accepté. Et du coup, on a créé ce jardin d'ortie. La loi a été amendée en décembre 2006, mais le décret d'application de cette loi n'est pas passé. Donc, nous sommes toujours hors la loi. C'est mon premier jardin politique. Le petit lagunage, le pont, on a créé tout ça. Et les orties qui étaient là. Ça, ça veut dire que c'est une terre qui est très, très malade. Hein, parce que pour qu'il n'y ait que des orties, c'est eutrophisé au maximum. Donc c'est du nitrate en puissance. Mais enfin, c'est une plante qui aussi remédie en même temps. Alors voilà la plateforme, les sentiers avec les taillés par les jardiniers pour pas se piquer, les plantes, on va introduire plusieurs orties différentes, les habitants et le filtre qui est un peu expressif parce qu'il fallait qu'on l'attention soit attirée. Donc là, Jean-Luc Denis, qui est le responsable des espaces verts de la ville de Mel, fait sa démonstration. Et maintenant, vous savez comment on le fait, le purin d'ortie, je reviens pas dessus, hein. C'est très simple, on le dilue 10 fois, enfin, en fait, c'est quelque chose qui renforce l'immunité des plantes, qui évite les traitements, enfin, c'est vraiment quelque chose de très remarquable, et on n'a pas le droit de, on aurait soi-disant pas le droit de le faire, ce qui est invraisemblable. Donc aujourd'hui, dans la ville de Mel, on distribue le jour du marché, le vendredi, un flacon de purin d'ortie gratuitement. Là, j'arrive de Tijuana, je viens de ça pour parler du tiers paysage. C'est un lieu très douloureux où le mur, ils sont en train de construire un deuxième mur. On a un no man's land, on me demandait d'observer cette diversité qui est du côté américain, c'est-à-dire dans l'endroit où il est supposé y avoir une réserve écologique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Voilà, ce mur, c'est celui qui est le premier. Qui est la juxtaposition des plaques récupérées de la guerre du Koweït. Voilà, les Tijuanais, les Mexicains en font des choses. De l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a que des numéros. C'est des habitants, côté Tijuana, qui sont tout proches, dans des sortes de bidonvilles. Hein. Il y a évidemment beaucoup de morts dans l'histoire du mur. C'est une histoire difficile. Et puis, il y a... Là, c'est les... Ceux qui surveillent, les Rangers, c'est le côté américain. Et ici, les Mexicains qui s'approchent, qui vont se baigner ou autre chose. Et les petits Mexicains qui passent, qui tentent de passer. Ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a quand même énormément de morts là. Et on voit qu'il y a une espèce de chorégraphie avec la mort, qui est quelque chose de particulier. Mais bon, il ils reviennent de l'autre côté hein, assez vite. Il y a ceux qui ne peuvent pas passer parce qu'ils sont trop gros. Et puis cette image-là, parce que on se demande ce que ça signifie, vous voyez. Eux, ils sont dans le rêve. Dans le rêve de San Diego qui est ici, ils regardent de l'autre côté de ce mur. On est au Mexique, hein, là. Et on se demande bien qu'est-ce que c'est que ce rêve qu'ils ont en tête. Parce que quand on fait la comparaison, quand j'ai passé trois fois la frontière d'un côté, trois fois de l'autre, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'était que leur convoitise. Alors on la comprend bien, cette espèce de luxe et de facilité, les grosses voitures, le gazon vert. Il n'y a pas d'eau hein, dans ce pays, etc. Mais ce n'est pas eux qui, finalement, dans leur mode de civilisation, sont les plus dangereux pour la planète. Au contraire, hein, c'est bien de l'autre côté. Donc il y a quelque chose comme un immense malentendu dans cette convoitise. Et ça, c'est très difficile de l'expliquer. Alors, quand on traverse la frontière, on trouve ça. On ne sait pas très bien ce que ça signifie. Mais c'était pour moi une interrogation. Qu'est-ce que c'est que landscaping ahead? Est-ce que c'est une maison très fleurie, préparée pour Noël, enfin tout? Mais quand on rentre dans la réserve écologique, alors on trouve le bâtiment d'accueil. Et là, il y a qu'est-ce que c'est que les envahisseurs? Et on voit que les envahisseurs, c'est... le tamaris, la rondeau d'Onax, qui est la canne de Provence ou le ricin. Et vous avez cette espèce de figure là. Enfin, et bon, je sais, ça se passe évidemment de commentaires. Et la réserve américaine, côté américain, et voilà le mur, avec des portions détruites à cause de l'érosion, parce qu'en fondant les murs, bien entendu, ils ont creusé, ils ont détruit le... Et en plus, énormément des sillonnés de routes qui accueillent ces plantes invasives, qui n'attendent que ça, comme les molènes, les pavots chez nous, etc., tous les sols ouverts. Hein, c'est ce qu'on a vu tout au début. Donc, ils font quelque chose là qui n'a rien à voir avec une réserve écologique. C'est juste pour pouvoir tirer ceux qui passent hein, le plus possible. Il y a un grand réseau de surveillance. Voilà les deux dernières images. C'est pour aborder, revenir... bouclé, si vous voulez, sur le comportement, cette diversité qu'on ne connaît pas. Comment se comportent les êtres? Et ça, c'est sûrement un arbre qui a eu une histoire un peu comme le pommier chez moi au début. Ça veut dire que comment il se sort de quelque chose qui a peut-être été douloureux, on ne sait pas. Il cherche à s'enfuir, et on dirait presque un animal, mais il est là, et il est quand même dans son milieu. Et puis, celle-ci qui reste un peu énigmatique. Il s'agit d'un taman, qui est un arbre tropical, et on voit que vous voyez, les frondaisons ne se recoupent pas, ne se superposent pas, ne s'imbriquent jamais. Elles se respectent. Il y a une sorte de distance. La photo est prise par en dessous. Ça, c'est Velvet Fern. Ce sont des fougères qui font un manchon. Mais le feuillage de l'arbre est ici. Cette lumière, on l'appelle une fissure de timidité. Et on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Ce sont les scientifiques hein, qui emploient ce langage-là. Il y a pour le moment une vingtaine d'espèces dans le monde qui sont recensées et capables de se manifester de cette façon. Peut-être que le chêne vert chez nous, dans le Vaucluse, sur des arbres très anciens, se comporterait de cette façon aussi. En tout cas, ce qui apparaît là, c'est que nous savons très très peu de choses sur le comportement des plantes entre elles, avec les animaux et avec nous, et que nous, en tant que jardiniers, ça nous remet complètement en question, parce que très souvent, nous faisons des gestes sans savoir quelles sont leurs conséquences, à quoi ça correspond exactement pour ces êtres-là qui sont des êtres vivants extrêmement complexes. Alors, il y a beaucoup à faire par rapport à cette diversité-là que je viens d'aborder rapidement, en passant d'un exemple à l'autre, parce qu'on n'en connaît qu'un tout petit peu de cette diversité et très 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 peu des comportements de cette diversité-là. Je vous remercie.